Bah avec moi
Coucou.
ici Elkatou, avec moi Nio et Nelson.
Hello. Coucou, coucou tout le monde.
Depuis la dernière fois, on voudrait vous remercier pour les abonnés. Voilà, c'est super gentil. On
Ah
espère
ouais.
que vous appréciez un peu.
Ouais, on espère que vous aimez bien.
Au menu d'aujourd'hui, donc on aura d'abord Blue Thunder de John Badham par Nelson. On aura ensuite Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau par Nio.
Eh oui.
Ensuite, on aura The Party de Sally Potter par moi-même. Ensuite, Bob l'éponge, éponge en eau trouble par Nio.
De nouveau.
Ensuite, connecté par moi-même. Et pour finir, Uncut Gems par Nelson. Donc, Nelson, avec Blue Thunder, alias Tonnerre de Feu, en
Alias
français.
Tonnerre de Feu. Alias Tonnerre de Feu en français, un film de John Badham de 1983, tourné en 82 à Los Angeles, avec Roy Schneider. Putain,
Ah.
ça fait des années, à chaque fois je dis ouais, Roy Schneider, Roy Schneider, en fait
On
c'est
dit
Roy
tous
Schneider.
Roy Schneider,
Qui
t'inquiète.
arrivera un jour. Qui arrivera un jour. Ouais, donc c'est Roy Schneider et Malcolm McDowell. Et en fait, c'est un film. Assez, enfin c'est moi déjà c'est assez c'est un peu enfin c'est un peu légendaire pour moi ce film parce que je l'ai trouvé par hasard sur Netflix et que c'est un film dont j'ai toujours vu que la fin en fait et c'est une comment dire c'est un aussi un peu particulier pour moi parce que c'est ça a été un jeu en fait de ce film a découlé un jeu quelques années plus tard sur Master System qui était interminable et qui était ultra chiant qui m'a pourri mes grandes vacances quand j'étais gamin et qui s'appelait Thunderblade. Et en fait,
Ah,
un truc de Sega. Ouais, voilà, exactement. Donc,
oui,
voilà,
impossible à jouer.
exactement. Et donc, comment on appelle ça, ce film-là, en fait, ça raconte l'histoire d'un pilote de la police de Los Angeles, un pilote d'hélicoptère, vous savez, les hélicos qui font, comment on appelle ça, qui font les patrouilles de nuit. Avec genre les gros projecteurs, tu dis rendez-vous, vous êtes fermés, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est un pilote d'hélicoptère, ancien du Vietnam, qui a quelques problèmes, qui a quelques troubles post-traumatiques, qui se retrouve en fait un jour à être pilote d'essai pour un programme d'un hélicoptère super intelligent qui s'appelle Blue Thunder. Et il s'aperçoit qu'en réalité,
Parce que l'idéal, c'est de mettre un mec complètement instable sur un truc expérimental, bien sûr.
ouais, mais c'est ça, et c'est l'idéal. Et en fait, ce gars-là, donc on lui propose d'être pilote d'essai. En fait, c'est l'administration qui impose ce mec-là à des fonctionnaires de l'armée. Et donc, du coup, le gars se retrouve là et il va s'apercevoir qu'en réalité, l'hélico en question, il va pas être utilisé à des fins de comment dire, des fins de on va dire des fins de la veuve et l'orphelin, mais plutôt à des fins de nuire. Et on est au début des années 80, donc au début des trucs futuristes, mais genre où il y avait de la fantaisie dedans, mais ça allait pas encore virer à Black Mirror, quoi, tu vois. Et donc le truc c'est de dire bah le truc il va servir à de la comment dire à de la non seulement à de la surveillance généralisée mais surtout à l'élimination de potentiels ennemis d'un groupe en fait d'un groupe n'est-ce pas une unité secrète mais d'un groupe en fait de gens dissidents qui vont justement essayer de nuire à autrui. Et donc ce mec-là, ce gars-là qui est joué par Roy Scheider, je suis désolé, j'ai oublié le nom. C'est Murphy, voilà, c'est Murphy. Murphy, il se Ça
retrouve
pense
dans
à
une idée de
Robocop.
truc.
Ouais, voilà, un peu, ça fait penser à Robocop aussi, ouais. Et c'est un mec, bon voilà, qui a des, qui est célibataire en fait, qui est avec une meuf, et en plus c'est comment dire. Ah merde, attends, j'ai un trou là. Ah voilà. En fait, donc c'est un gars qui est un pilote chevronné et donc il s'aperçoit que il a eu un. En fait, dans le film, à un moment, il y a eu un homicide Et ils sont dans la zone où il y a eu l'homicide et un peu au début ils signalent une bagnole abandonnée et ils s'aperçoivent que il y a eu un homicide. Ils quittent la zone, ils s'aperçoivent qu'il y a un homicide dans cette zone, ils reviennent sur la zone et la bagnole qui est abandonnée a disparu. Et donc à partir de là, il y a donc l'homicide c'est une meuf qui appartenait à un programme de comment dire je ne sais plus si c'est un programme ou si c'est
Un autre programme expérimental, parce qu'il n'y a
Ouais,
que
non,
des
mais qui
programmes
était en fait qui était
expérimentaux.
contre ben en fait qui était contre ce programme-là et qui a découvert que en réalité les mecs qui étaient à l'origine de ce programme ils avaient créé eux-mêmes les ah merde les événements qui se passaient dans la ville parce que la ville elle est secouée par des tas de manifestations par un bon grandissant des enfin un gros sursaut des homicides etc.
Alors moi, de
Et
ce que
en
je
fait,
comprends, il y a un gros bordel politique. Et en gros, leur réponse, c'est une technologie armée.
voilà, c'est ça. Et
Ouais.
donc voilà, donc c'est un c'est donc ce film-là et moi pour moi je le trouve vraiment super, vraiment super. Et alors déjà techniquement, enfin je veux dire le chef-op de ce film, c'est pas un aveugle. Putain, les prises de vue, elles sont magnifiques. L'image, elle est super belle. Les plans sont bien détaillés. Les scènes d'action sont superbes. Je veux dire, il y a des plans en fait de combats d'hélico, mais dans la ville, tu vois. Donc dans Los Angeles, et ils sont super bien faits. Et pour l'époque, à part les, tu vois, les limitations de l'époque, seulement quand il y a des chasseurs, tu sais, des genre les F-18, des trucs comme ça, tu vois, les chasseurs. De l'armée qui essaie de d'intercepter en fait cet hélico et ils sont là tu vois que c'est de la maquette là tu vois que c'est de la maquette mais sinon tout le film est vraiment bien réalisé et le scénar est vraiment alors même si je l'ai résumé avec les pieds le scénar est vraiment bon tout s'emboîte bien il n'y a pas de choses qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Malheureusement, c'est mal retranscrit dans la VF. Faut regarder le film en VO parce que la VF elle est mal adaptée. Les doubleurs sont très bons, hein. C'est les doubleurs de l'époque, donc t'as des voix que t'as connues évidemment quand t'étais minot. Mais c'est un comment ça s'appelle? C'est
C'est
un
avec la
c'est
trad de l'époque aussi,
malheureusement.
quoi.
Ouais, voilà, mais malheureusement c'est mal adapté. Du coup, il y a des choses qu'on comprend pas tout de suite, alors que en VO bah tu le piges direct quoi. Et en plus, il y a une cascade de bons acteurs, dont le rookie qui est donc le mec qui est là, le débutant, qui est au début collé à Murphy, qui s'appelle que tout le monde appelle Jafo. Et en fait, Jafo c'est des initiales en fait. Et Jafo, ça veut dire just another fucking observer.
Alors,
C'est pour les mecs qui viennent faire les stages d'observation en fait. Et donc du coup, il le met, il lui, donc t'as ce personnage-là, il est joué par un des deux casseurs flotteurs, celui qui avait les cheveux, les gros cheveux. Là, j'ai oublié son blaze.
je
Parce
sais
que dans le
plus,
premier, il
putain.
était joué par Joe Pesci, il me semble, et le deuxième, il était, il est, c'était le grand dadais dans les casseurs flotteurs.
Tu parlais, excuse-moi, je t'interromps, tu parlais du chef-op tout à l'heure, de la fin de la photo et tout. Effectivement, c'est pas un débutant, c'est John A. Alonso, qui était sur Chinatown de Roman Polanski,
Ah bah tu vois.
et sur, attention, sur Scarface.
Ah merde.
Le film dont tu parlais la semaine dernière, justement, que t'as pas aimé. Donc voilà.
Comme quoi, on ne peut pas faire que des trucs bien. Non, j'ai fait.
Non,
Non,
mais sur
il y
ce,
avait
c'est
pas du gâteau à
pas.
repos sur. Mais non, justement,
C'est
j'avais
pas du cool.
salué. Non, mais attends, je vais être cohérent. J'avais salué l'image et les beaux plans de Scarface. J'avais salué ça. Donc du coup,
Donc,
on
John
reste dans
A.
les clous.
Alonso, quoi.
Ouais, on reste dans les clous. Et en fait, ce film en VO, donc moi j'ai beaucoup apprécié en VO et surtout pour la qualité de jeu. Bah, par exemple de Malcolm McDowell. Alors malheureusement, tu vois que le mec, il a pas réussi à se défaire de son accent anglais. Mais du coup, il joue très bien l'espèce de connard de l'armée qui est arrogant, qui est une espèce de connard arrogant de l'armée et tout. Et en fait, c'est dans le film, il joue donc ce mec-là. Et ce mec-là, C'était
méchant.
Un ancien soldat avec qui Murphy a servi dans l'armée au moment du Vietnam. Et les incidents post-traumatiques qu'a Murphy sont à cause de ce mec-là. Parce que ce gars-là, en fait, quand Murphy était pilote d'hélicoptère pendant une mission, il a acheté un Viet Cong du haut d'un hélico. Du haut de son hélico. Donc ça vient avec ce post-traumatisme là, il vient avec ce personnage là.
Donc et il donc, agit un peu en némésis.
Voilà, un truc comme ça exactement. Et tu vois ce personnage là, moi je le trouve vraiment, moi il m'a fait marrer vraiment autant que Murphy, je l'ai trouvé vraiment il m'a fait vraiment marrer parce que il joue véritablement bien le connard arrogant quoi. Et les galeries de personnages sont un peu, c'est du classique quand même pour les films de l'époque. C'est-à-dire t'as le méchant, espèce de connard arrogant, t'as le chef de la police qui est toujours énervé, t'as le Wookie qui est un mec, un peu à l'ouest, un peu, tu sais, genre une espèce de jeune puceau un peu à l'ouest. Et ça le héros, donc t'as le héros Murphy il est avec une, ça aussi que je voulais souligner dans le film, c'est l'interaction des personnages et tout s'emboîte bien. Il y a pas un truc où tu te dis ouais non ça va pas, tu vois, il y a pas un truc où tu te dis ouais, ça va pas, c'est pas vrai.
Parce qu'à un moment tu vois Murphy, c'est pas un porno, tout s'emboîte bien,
Mais oh merde. les personnages vont tous bien ensemble, du coup le casting est vraiment réussi. Je veux dire, il y a un moment en fait Murphy il est avec une meuf et cette meuf là en fait elle essaie de, tu sais, ils sont en couple mais c'est un espèce d'entre deux, tu vois. Et franchement oui, ça marche super bien. Ouais, ça marche super bien, c'est-à-dire que tu vois que le mec lui il est là et il dit putain ouais ça me tirait bien de reprendre avec toi, et la meuf qui est là qui tu dis mais vas-y viens on reprend en forme et tout, regarde je te promets que je vais changer et tout machin, et puis en plus blablabla, et ça marche bien, ça match super bien, tu vois. Donc ça c'est une des réussites du film, c'est que le casting est vraiment bon, la musique est très bien, la musique c'est j'ai oublié le nom du, c'est pas Alan Silvestri, j'ai oublié le nom du compositeur, mais
Arthur Bernstein.
Voilà, merci Nadus. Et franchement, la musique est très bien, les plans sont superbes, l'ambiance générale est très bonne. Je veux dire, le truc est sans fioritures, j'ai pas senti de longueur, tu vois. Et surtout les combats en hélico sont super bien faits, sont vraiment très bien faits. Il y a pas de.
Ça nous fait baver, là.
Ouais, mais franchement, tu sais ce qui est fort là-dedans, parce que ça correspond vraiment au film des années 80, c'est-à-dire que le moment où tu dis ouais le futur va nous donner les voitures parlantes ou alors les motos qui vont à 500 km/h, mais là tout s'emboîte vraiment bien. Je veux dire, il y a un truc que tu dis ouais c'est fun, il y a un truc de fun, ça essaye pas encore de te faire peur vraiment avec le futur, tu vois. Comme pourrait le faire Black Mirror, tu vois, et t'as pas encore ce truc-là.
Parce que ça précède Robocop en même temps. Hein.
Ouais, voilà, c'est vrai. Mais franchement, ce film-là, il vaut le coup. Regardez-le parce que vous allez passer un bon moment. Vraiment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je me suis pas emmerdé un seul instant. J'ai pas senti de longueur. Le personnage de Rushheimer, il est vraiment bon. Franchement voilà, c'est une réussite, et puis ça m'étonne pas parce que voilà, John Badham, vous avez vu War Games, vous avez kiffé War Games, vous avez kiffé Blue Thunder, ça c'est garanti sur facture, ça c'est clair, voilà.
D'accord.
Ça donne envie.
Voilà. En espérant en tout cas que vous allez plus le kiffer que la manière dont je vous l'ai résumé, parce que ça fait un peu sympa. Mais voilà, regardez-le, franchement regardez-le, voilà.
Donc Neo avec Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau.
Eh ben oui. Écoute, Katou, j'en ai profité parce que non seulement Netflix a mis le tout dernier film en date, qui devait peut-être sortir en salle, mais du coup, qui s'est retrouvé sur Netflix. Et il y avait aussi les anciens films, et il y a 3 saisons, alors pas forcément les premières saisons, apparemment c'est saisons 5, 6 et 7 de Bob l'éponge qui sont sur Netflix. Mais apparemment, de toute façon, la série qui compte maintenant 12 saisons depuis, c'est les meilleures, les premières saisons. Donc, bon. Et donc, du coup,
je cherche l'intégrale, justement.
Pardon ?
Je cherche l'intégrale, justement. C'est ce qui est très triste.
Pense, ça doit, pour voir tout de facilement. Et du coup, bon, je n'ai pas vu le premier film qui est, paraît-il, un des meilleurs. Et tout le monde le dit, mais surtout les fans. Or, je ne suis pas un fan de Bonne Éponge à la base, justement. Donc, j'ai pu aborder les deux films, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, avec un regard quasiment neuf et vierge.
Ben moi, je te confirme, le premier, c'est le meilleur.
Voilà. Mais le deuxième, du coup, je l'avais jamais vu. Il était sorti en salle à l'époque. Je comptais aller le voir avec un ami à moi que nous connaissons bien, qui n'est pas dans le cinéma anglophone, mais qui est parfois qui intervient dans le Pony Cosmic Club, qui est Fred.
C'est
Voilà,
sûr, je
donc c'est un
ferai.
petit peu du... Ouais, c'est un petit peu du ring. Et parce que c'est un grand fan de Bob Éponge. Et du coup, écoute, j'avais pas pu le voir en salle. Là, j'ai pu le voir hier soir. Je me suis fait une soirée spéciale Bob l'éponge. Et j'ai ri comme une baleine. Alors, ça
On
se traduit en
était
une
tous
baleine.
raccord, on a tous fait une soirée Bob l'éponge.
Ah
Une espèce de communion comme ça autour de Bob l'éponge.
ouais, mais le deuxième, apparemment, même si on pas le premier, il y a des moments qui sont quasiment 80% du film, ça a spiffé de rire, c'était fabuleux. Pour moi qui aime bien l'humour totalement absurde, même le deuxième des instants méta, moi c'est mort de rire. Et ça va des gags absurdes où il y a un petit personnage qui s'appelle Plancton qui va à l'intérieur du cerveau de Bob et il voit que c'est rempli de barbe à papa, de sucreries, tout ça. Il y a même un
Plancton,
petit peu, il y a...
c'est la néfant, enfin, c'est la némésis de Krabs, en fait.
Oui, oui.
C'est le méchant éternel, quoi.
C'est ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Bob l'éponge, je précise donc que c'est le méchant qui est toujours de piquer la recette du burger au crabe. Et d'ailleurs, c'est un méchant qui a son petit restaurant juste en face du crabe croustillant où
Mais
Bob
qui n'a
travaille
jamais
avec.
personne.
Voilà, il n'a jamais personne parce qu'il paraît que c'est vraiment, c'est tout dégueu sa bouffe. Et du coup, dans le genre, voilà, des blagues complètement absurdes, donc Plancton, à un moment, donc bas dans le cerveau de Bob, il n'y a que des sucreries, tout ça. Et là, t'as un clin d'œil à Shining, avec sur les jumelles, ce sont des glaces avec deux cônes qui font bien jouer avec nous, à vous comprendre. Et il y a même un clin d'œil à 2001 l'Odyssée de l'espace, tout ça. Il y a un clin d'œil à même à la science-fiction avec le guide du Wizard Galactique, avec un dauphin qui est l'observateur cosmique, etc. Il y a beaucoup de références, mais n'importe qui, petit ou grand, qui n'a pas de référence, peut voir le film et se marrer n'importe comment. C'est ça qui est bien. Et le film de se payer aussi un peu les super-héros sur un mode comique dans sa dernière partie, complètement what the fuck, mais j'ai adoré ce passage-là parce que non seulement la 3D est magnifique, et elle est encore plus magnifique avec le nouveau qui colle presque au dessin animé, le tout dernier sur Netflix qui passe encore des sommets esthétiquement, visuellement, mais là, le film de 2014-2015, là, quand ils sont hors de l'eau, qu'ils sont dans le monde réel, graphiquement, ça tape, c'est cool, je me dis pas, ça va dépasser dans 10-20 ans. Contrairement à la menace fantôme que j'avais revue en salle il y a quelques années, qui avait pris un sale coup de vieux sur les effets spéciaux. Du coup, c'est un pur bonheur totalement absurde, avec des clins d'œil, à la fois pour ceux qui connaissent la série, mais aussi pour ceux qui connaissent pas la série. Donc, franchement, c'est top. C'est top. On passe un bon moment avec Bob l'éponge et avec Héros sort de l'eau. Ce qui est
Alors,
moins
c'est
le cas avec l'autre qui est tout récent Netflix, Éponge dans le trouble, où là, par contre, je suis beaucoup plus partagé, et même les fans, visiblement, sont aussi plus partagés. Mais on va y venir après, justement, tu vas peut-être en parler aussi. Voilà,
Alors,
voilà.
moi, ce qui me, enfin, moi, sur la 3D, je suis assez mitigée. En fait, moi, enfin, justement, sur Bob l'éponge, que j'aime bien, c'est vraiment le côté dessin animé, quoi. Sur la 3D, j'aime pas trop, en fait, beaucoup, mais
Mais le côté dessin animé est conservé à 50% dans le film, quoi. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de gens ont râlé sur cet aspect-là, mais moi j'ai trouvé ça cool, ces espèces d'aller-retour, etc., qui permettent de faire une mise en abyme avec un conte, avec le fameux livre qu'on écrit qui est magique. Et justement, le livre permet justement de passer dans le monde de Bob. Je trouve ça assez fin quand même.
Après, c'est ce qui est marrant, c'est ce qui moi, ce qui m'a fait bizarre, mais qui est un peu aussi, c'est d'avoir Antonio Banderas dedans. Et
Il est très bon.
il y a cette confrontation, en fait, comme dans le premier, où à un moment il y avait Asseloff, d'avoir d'un
Oui, et puis
coup
c'est un
un.
pirate aussi comme Asseloff.
Non, Asseloff, il fait pas un pirate, il fait Asseloff. Il fait
Ah, c'est
Asseloff.
ça. Mais en
Ouais, il
fait,
fait.
c'est un clin d'œil un peu au pirate qu'on voit dans une dessin animé, puisqu'à la fin, le pirate,
Oui.
qu'Antonio Banderas, se change en pirate dessin animé. Donc là
Oui,
aussi, le clin d'œil, je trouve assez bien foutu.
la gestion du personnage est pas mal, mais je trouve pas que ce soit un personnage qui aille à Antonio Banderas, en fait. Mais bon, Après, c'est le côté, en fait, enfin, c'est le côté où, même avec les pirates du début du film, en fait, où on te fait bien sentir, on assume que, genre, on assume d'être dans un spectacle pour enfants, quoi. Donc,
Tout à
parce que
fait.
c'est pas chiadé, t'as l'impression, c'est la pièce de l'école, quoi, tu vois, c'est de ce côté-là, tu vois, c'est purement assumé. Mais de voir Banderas dans ce contexte-là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon.
Bah écoute, moi ça m'a pas dérangé dans le sens où il fait plaisir, et donc du coup ça fait plaisir aux spectateurs. Et c'est peut-être effectivement essentiellement pour les enfants et les ados et pour ceux qui ont grandi avec Bob l'éponge. Mais comparé aux
Ah non,
trois
mais
autres films,
excuse-moi, clairement, ils savent que des adultes regardent Bob l'éponge. Hein. Il y a des fois des
Oui.
références. Enfin, je veux dire, la référence à Shining, c'est clairement pour les adultes. Hein, donc.
C'est ça. Mais il y a quand même un côté donc méta pour les adultes, etc. Puis aussi les enfants, même s'ils comprennent pas les références, ils peuvent se barrer aussi. Mais dans le tout dernier sur Netflix, là, auquel on va parler juste après, par contre, il y a tout un aspect infantilisant qui m'a énervé du début à la fin, quoi. Bon, enfin, on va y venir après.
Donc, bah, je vais enchaîner avec The Party de Sally Potter.
Go, go, go.
Donc, The Party de 2017. Il y a un casting all-star, quoi. Hein. C'est un truc de malade. Donc, il y a Timothy Spall, je sais pas, non, Spall. Christine Scott Thomas, Patricia Clarkson, Bruno Ganz. Sherry Jones, c'est une meuf qui a surtout beaucoup fait de télé. À un moment, vous avez forcément croisé sa tête. Elle a un certain âge maintenant. Moi, je l'ai vue dans des trucs des années 90, essentiellement. Emily Mortimer et Cillian Murphy.
Ah oui, quand même.
Voilà. Ils ont tous à peu près le même âge, sauf Emily Mortimer et Cillian, enfin, le même âge, de la même génération, j'ai l'impression. Et donc, concernant Sally Potter, en termes de filmographie, moi j'avais vu que le précédent qu'elle avait fait, qui était, enfin, qui s'appelait Ginger et Rosa, qui était pas, enfin, il était sympa, mais j'en ai pas un grand souvenir. Donc, c'est pas, ouais, c'est pas phénoménal, quoi. Et sinon, elle a fait essentiellement du court-métrage, elle a fait un petit peu de télé. Ouais, elle a fait quelques longs métrages. Voilà, c'est pas la réalisatrice la plus connue du monde, mais c'est pas une débutante. Voilà. Depuis,
D'accord.
elle a fait deux autres films et justement le dont un, bah, cette année, The Road's Not Taken, et elle en a un qui est en post-production, pardon. Et donc voilà. Et concernant le film, donc l'histoire à peu près, c'est l'histoire de Janet qui est jouée par Christine Scott Thomas, qui fait une petite fête chez elle avec quelques amis pour fêter une étape importante dans sa carrière politique. Donc
Ouais.
il y a de l'effervescence, tout ça, enfin surtout pour elle, parce qu'elle est toute excitée, parce qu'elle enchaîne les appels parce qu'on n'arrête pas de l'appeler pour la féliciter alors qu'elle est en train de faire la cuisine, tout ça. Pendant que son mari, qui est joué par Timothy Spall, qui est son mari Bill, lui, il est complètement amorphe dans le salon. Il est posé dans son fauteuil. On sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ou on sait pas. On le sent complètement à l'ouest. Enfin, voilà. Et donc
Je
les
sens
invités
le grand
arrivent.
drame bergmanien.
Il y a les invités qui arrivent petit à petit. Et au moment de porter un toast, en fait, bah les potes, en fait, ils décident que c'est le moment aussi de faire leur révélation.
D'accord.
Donc, le mari et les potes, ce qui donne un enchaînement un peu spécial, c'est-à-dire qu'en gros, assez drôle, dans le sens où Janet a fait bon bah fais ton ça, portons à tous tout ça. Ensuite, t'as un couple d'amis lesbiennes qu'enchaîne en disant au fait, on attend des triplés. Et t'as son mari Bill qui fait ah oui, au passage, je vais bientôt mourir. Donc
Ok.
voilà. Et ça, c'est les premières révélations.
C'est l'histoire ton truc là.
donc
C'est
sur
Western en fait, Western américain.
sur la construction du film, en gros, c'est un vaudeville. C'est un vaudeville, donc à base de tromperies, de vannes, de situations risibles, mais un vaudeville qui des fois se dirait bon, on rigole, mais on est sur un sujet sérieux là. Donc bon, il y a le enfin le film est un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est un drame comédie, comédie drame. Enfin bon, le film est en noir et blanc. Donc, ce qui ajoute un côté très sérieux, voilà, c'est.
Superman.
Non, mais c'est pour dire attention, on a un casting all-star, on fait ça en noir et blanc, c'est un vaudeville, mais voilà, c'est du sérieux.
On va faire à chaque interrupteur, on va faire Bergman.
Le premier plan et le dernier plan sont quasiment identiques. C'est juste qu'en fait, sur le dernier plan,
Brique.
y a la révélation finale, c'est tout. Voilà. Et entre les deux, il y a toute l'action en continu, en fait. Parce que, voilà, l'action, c'est un flashback du premier plan, quoi. Voilà. Donc, au niveau des personnages, donc, ça marche par couple. Parce que, on le sait tous, hein, la vie en société, c'est forcément des couples, hein. T'as Christine Scott-Thomas qui fait une femme en plein aboutissement de sa carrière, qui est en couple avec Timothy Spall, qui a toujours joué le mari idéal jusqu'ici. Donc, on l'a dit, qui est complètement amorphe, on le sent, quoi. On sait pourquoi après. T'as Patricia Clarkson qui est hyper irritante et qui est irritée par tout ce qui l'entoure, qui forme un couple avec Bruno Gantz, qui lui fait un hippie amoureux. T'as Cherry Jones et Emily Mortimer qui font donc le couple de lesbiennes qui sont en passe de devenir parents de triplés. T'as Cillian Murphy qui fait un jeune banquier sous cocaïne et qui arrive en avance de sa compagne, compagne qu'on ne verra jamais. Parce que c'est un espèce de personnage un peu, voilà, qu'on cite un peu, et puis, enfin, qu'on cite un peu, qu'on cite. Elle a son rôle dans l'histoire, hein, mais on la voit jamais. On la verra jamais. On est au niveau des personnages, donc je disais, en fait, tout à l'heure, ils ont tous le même âge, donc on est sur un schéma un peu de couple de boomers, quoi, qui ont des vies, mais qui ont des modes de vie modernes. Du coup, dans les dialogues, en fait, c'est assez empreint des interrogations de génération, quoi, de leur génération. Et des fois, ça donne, justement des enchaînements, assez drôles, notamment sur les vannes qui se lancent, quoi. C'est des vannes, j'appelle ça des vannes, mais c'est voilà, on peut trouver ça plus ou moins drôle, quoi. Par exemple, c'est vite fait aborder la transmission de la culpabilité, parce que Gantz, il est allemand, donc forcément, tu vois, on parle des nazis à un moment.
Non,
Voilà.
ça c'est pas drôle.
La chrétienté, les préceptes de bonté, vite fait, la médecine moderne, qui est très inhérente au personnage de Gantz, justement. Enfin, parce qu'il est contre. Mais ça tarde jamais, quoi. C'est vraiment des petites phrases qui trahissent justement les petits personnages et ce qui les habite, quoi. En termes d'ambiance, ça peut donner des trucs du genre où t'as. En gros, tu peux résumer ça à Bill Timothy Spall qui fait je vais crever, Gottfried joué par Gantz qui fait la médecine occidentale, c'est de la merde. Cillian Murphy qui fait des allers-retours pour se faire des rails de coke à la salle de bain. Patricia Clarkson qui est toujours en mode les gens c'est de la merde. Enfin, et Christine Scott-Thomas qui encaisse toutes les révélations au fil du film, tu vois.
À la fin, elle pose bonne bouteille de bière, elle termine toute la réserve.
Et donc. On est sur une opposition des personnages en termes d'idées aussi. Donc, l'argent et l'amour. L'argent et
T'as huis
l'amour.
clos, t'as huis clos surtout.
Oui. Bah oui. L'argent et l'amour
On
entre
va faire un
si.
Batman.
L'argent et l'amour pour Cillian Murphy, Bruno Gantz et Timothy Spall. Parce que c'est une boucle, en fait. Gantz, qui devient un espoir pour Timothy Spall. Et Spall qui devient concurrent pour Murphy. Cillian Murphy dont le personnage a un mode de vie qui va à l'encontre de celui de Bruno Gantz. Enfin voilà, leurs trois personnages sont en boucle. Les engagements vers les autres, c'est-à-dire Kristin Scott Thomas, elle est dans une carrière politique, donc pour le peuple, pour l'État, et Patricia Clarkson, elle est en mode, ça serait, enfin les gens c'est de la merde, et elle le dit un moment, elle dit, en parlant du personnage de Kristin Scott Thomas, elle dit, Janet, elle a encore la force de se battre, quoi, tu vois, enfin, alors que elle a dit clairement qu'elle s'en bat les couilles maintenant, quoi, en fait. Oui, j'ai des couilles. Mais voilà, elle la soutient quand même. Sur la famille aussi, donc au sein du couple de lesbiennes, parce que les deux, en fait, ont une conception différentes de ce à quoi elles aspiraient en fait. C'est-à-dire qu'elles ont fait une fille, mais au final, elles sont pas d'accord l'une et l'autre sur est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Alors que c'est trop tard maintenant, c'est fait d'attendre des triplés. Donc, avec les conséquences que ça a et les discussions que ça a, quoi. Il y a une décalage aussi au niveau de l'ambiance musicale, parce que le personnage de Timothy Spall et un moment Bruno Gors, ils mettent des petites musiques derrière, tu vois, pour l'ambiance, c'est ça. Mais en même temps, comme il se passe des réactions un peu dramatiques, voilà, d'un côté, bah derrière, tu peux avoir une petite musique joyeuse et entraînante pour contrebalancer les dramas, ou une petite musique jazzy pendant que les gens s'engueulent, enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et en fait, tout le film repose sur les confrontations et les oppositions. Le film est assez court. 1h10. En fait, c'est juste une tranche de vie, hein. Donc voilà. En fait, cette double ambiance peut être un peu déstabilisante et peut-être par moments on peut s'ennuyer parce que bon, il y a des discussions de faire. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Mais l'offre dans l'ensemble est assez intéressante, c'est ne serait-ce que pour son casting 3 étoiles. La conclusion est un peu ouais, ok, d'accord. Mais bon, mais voilà, dans l'ensemble, le film est plutôt sympa. D'ailleurs, je crois qu'il a eu des il a eu des récompenses, je crois, et des nominations. Donc ça reste quand même un bon film. Voilà.
Ok.
D'accord, ok.
Donc, Mio,
Oui.
avec Bob l'éponge, éponge un autre rôle.
Alors, eh ben on va repasser à notre ami Bob. Donc,
Ok.
Nelson, tu peux quand même rester avec nous, Nelson. Alors, Bob l'éponge, éponge dans nos troupes, donc c'est le tout dernier film de Bob l'éponge qui est sorti exclusivement sur Netflix, vu que bah, confinement oblige, plus de salles de ciné, etc., tout ça. Il va peut-être plus sortir en salle, mais bon. Et alors, là, je vais être
Il
un
n'a même
peu
pas eu de
plus.
sortie technique.
Pardon?
Il n'a même pas eu de sortie technique.
Non, mais il y a eu
Non.
beaucoup de films qui sont sortis directement sur les plateformes cette année.
Ah oui, c'est celui, d'accord.
N'oublions pas qu'il y a eu le tout dernier Borat, c'est qui est sorti sur Amazon Prime.
Ah oui.
Là, c'est donc Bob l'éponge, et puis d'autres trucs qui sont sortis aussi. Je pense que
Il y en a
Tatum
eu
nous en
sur
parlera mieux.
Netflix régulièrement, sur Prime un petit peu aussi, voilà quoi, c'est pas.
Voilà. Oui, bon. Donc c'est donc un nouveau film Bob l'éponge qui est entièrement cette fois-ci entièrement en 3D. Le précédent de 2014-2015, il y avait des passages en dessin animé et des passages en 3D quand ils étaient dans le monde réel. Là, c'est entièrement fait sur ordinateur. Et comme je dis rapidement tout à l'heure, graphiquement, esthétiquement, ça bute. Mais ce sera un des rares points positifs pour moi. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à ce Bob l'éponge 2020, QV 2020, on va dire. Alors déjà, bon, ben je vais dire un peu tous les points négatifs. Comme ça, les points positifs, je les ai un peu évacués. Non, je suis méchant, je suis méchant. J'ai un film, c'est potable. Je pense que Katou l'aura peut-être un peu mieux apprécié que moi. Elle va nous en parler un peu après. Mais par exemple, donc esthétiquement, c'est magnifique. Mais là, le film... Autant il y avait juste un caméo de Antonio Banderas dans le précédent, qui faisait un rôle de pirate, qui d'ailleurs qui se marrait bien.
C'est même pas
Là,
un
nous
caméo,
avons,
c'est un vrai rôle, hein.
ouais, carrément. Là, on a trois, quatre caméos, avec le plus connu évidemment Keanu Reeves, qui joue le grand sage, qui est une espèce de buffon ardent, qui vient, etc. Bon, ça reste dans la droite lignée des passages absurdes dont la série et les films nous ont un peu gratifiés. On a Snoop Dogg qui arrive. Bon, je trouve que ça fait un peu pitié parce que pour moi, Snoop Dogg, voilà, c'est. Écoute, je savais même pas qu'il existait encore, donc pour être gentil.
Oh,
Oh
t'es
là
dur,
là, là,
t'es
là, là,
dur.
c'est condescendant, pas mieux. Là, c'est condescendant.
Non, mais c'est comme.
Là, je suis pas d'accord. Le mec,
Snoop,
il a fait
mais
des
comme
albums,
Cuba
il a fait des
dans le
albums
demi,
de
quoi.
country. Le
Quoi?
mec, il a fait des albums de country, il a fait des albums de comment ça s'appelle, de reggae. Il continue à faire du rap. Non, il existe encore, Snoop Dogg, Néo, enfin.
Bon, écoute, de toute façon, j'écoute pas la country, donc c'est un des rares genres qui j'ai du mal. Donc, non, bah, après, non,
Alors,
mais
attends, je t'arrête sur
ça
Snoop
passe dans
Dogg.
le film, mais moi, ça m'a fait
Attends,
gêner,
je
quoi.
t'arrête 2 secondes sur Snoop Dogg, en fait. Snoop Dogg, en réalité, son truc maintenant, c'est essentiellement de faire des caméos. Et
Ah
c'est
bah en plus,
non,
bravo.
enfin après musicalement, je sais pas, mais en tout cas médiatiquement, il fait des caméos. Tu peux le retrouver dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il lui est arrivé d'animer une émission culinaire, ou en tout cas, je sais plus, en guest ou je sais pas quoi, avec Martha Stewart, parce qu'ils sont super potes en fait. Ou de faire un truc avec Seth Rogen aussi, où ils sont tous les deux en train de fumer des joints. Moi là, récemment cette semaine, je suis tombée sur un tutoriel maquillage où le mec il fait la voix off en fait. Du tutoriel. C'est-à-dire que c'est le concept du truc en fait, où je crois que c'était une vidéo sponsorisée en fait. Donc Lana elle a dit bah aujourd'hui ma vidéo est sponsorisée par tel truc, et bah le concept, c'est-à-dire que pendant que je me maquillais, il y a Snoop Dogg qui va commenter ce que je fais. Et donc c'est assez drôle quoi, parce qu'en plus ils ont adapté un peu le montage et tout, et y a c'est plein de trucs comme ça où tu vois il fait des trucs. Je crois que récemment, enfin non, c'était il y a 2 ans, je crois, il était avec la VVE, parce que il était apparu sur la VVE, il fait de temps en temps des trucs comme ça, mais vite fait quoi.
Ouais,
En fait son truc,
il voit
c'est
l'image.
voilà, c'est ça. Son boulot maintenant, c'est je suis Snoop Dogg. Et du coup, c'est parfaitement cohérent en fait. Là, tu peux le retrouver. Il est partant pour tout. C'est-à-dire que il est voilà. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Tu sais, c'est comme en chanson. Enfin moi, ce qui m'avait interrogé, il avait participé à la chanson avec Katy Perry.
Ouais.
C'est pas son créneau, la pop. Bah voilà. Mais il est partant pour tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu dois le retrouver à faire ce qui. En plus, c'est une scène où il rappe un petit peu dans Bob l'éponge, donc c'est pas si éloigné. C'est pour ça que pour moi, c'est pas normal que ça reste dans son personnage qu'il a maintenant,
Wow. C'était la vie de Catou
en
qui est toujours prête à pouvoir graisser un peu la patte du diable.
fait.
D'ailleurs, en parlant de diable, ça permet de rebondir sur Danny Trejo, d'ailleurs, qui joue justement El Diablo. Ça, c'est un petit caméo assez sympathique que, bah, voilà, c'est comme pour Banderas, pour ça, ça fait plaisir, mais c'est un rôle de 5 minutes, quoi. Et puis, ça fait limite Bob l'éponge qui a dégommé Danny Trejo. C'est marrant.
Et ben, pour concernant Danny Trejo, je te dirais que lui aussi, son truc aussi, c'est de se vendre lui aussi. C'est-à-dire que
Oui, mais
maintenant,
ça
il
me
est
gêne moins
parti
dans le
dans
créneau
tout.
que je suis plus habitué en tant que cinéphile, quoi.
Pas que cinéphile. Maintenant, tu le vois apparaître dans des séries à la con ou des petites séries machin, parce que il sait que dès qu'il apparaît, on fait oh, c'est Danny Trejo. Tu vois, moi, enfin, il y avait un truc qui m'avait scié, c'était de le voir dans un épisode de la série Flash, quoi. C'est où il joue le père d'un personnage vite fait machin, et je sais plus, je l'ai vu dans pas longtemps, ou il y a pas longtemps, je me rappelle même pas ce que c'est, mais c'est vraiment un truc à la con, parce que maintenant bah je suis Danny Trejo, je peux me permettre tout ce que je veux.
Enfin, il faut dire qu'il est plutôt jeune, donc je pense qu'il peut se le permettre aussi. Hein.
Oui, mais s'en fout maintenant,
C'est
bah.
ça, il atteint la sagesse, comme plein de grands vieux acteurs, etc. Donc voilà. Non, après le film, il y a un truc que j'ai évoqué rapidement la dernière fois, c'est qu'il y a un ton beaucoup plus infantilisant.
Je suis d'accord.
Alors, ça tient en plusieurs points, mais du coup, par exemple, les blagues un peu méta ou d'autres trucs, il y en a un petit peu évidemment, parce que c'est Bob l'éponge, mais il y en a beaucoup moins. On joue plus sur l'aspect mignonnerie avec Gary. Alors, j'aime beaucoup Gary, même s'il est, voilà, il est mignon, mais il faut arrêter de jouer avec les gros yeux, etc. Ça va bien un instant, quoi. C'est limite presque pour vendre des peluches de Gary et l'escargot, quoi. Et là, par exemple, il y a une petite blague un peu avec Kenny G, qui est Kelpie G, qui est un saxophoniste, et puis il se fout de la gueule du musicien. C'est, ouais, c'est une petite
Mais ça,
blague
c'est
méta
pour
du
les
truc,
vieux,
quoi.
hein. Clairement, Kennedy, c'est pour les vieux, hein.
Voilà, mais c'est ça. Mais voilà, moi, ça m'a fait marrer, parce que c'est le genre de truc qui est complètement perché, que peu de gens vont reconnaître. Et là, il y a Carlo qui reconnaît tout, qui dit, OK. Mais sinon, bah, et puis, il y a plein de passages où il y a Bob, des flashbacks où il se rappelle quand il a vu ses amis, quand il était enfant, alors qu'en fait, dans la série, j'ai pas vu la série, mais je me suis renseigné un peu. Sandy, il la voit quand il est adulte, Bob, l'éponge, et même Mr.
Oui,
Krabs aussi,
je crois
quoi.
qu'il y a un épisode là-dessus, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a un épisode là-dessus.
Non, mais ça, en fait, c'est parce qu'il y a une série qui va arriver en 2021-2020 qui raconte les Underwater Kelp Camps, je sais pas quoi, quand ils sont en vacances, ils sont tout jeunes, etc., qui va s'adresser pour un nouveau public de gamins, donc ils vont découvrir un nouveau Bob l'éponge, une nouvelle série qui arrive bientôt.
Hey, reboot Bob l'éponge en quelque sorte, quoi.
C'est ça, c'est quand je sais plus trop quoi. Mais
Je sais plus.
voilà, de toute façon, faut pas se leurrer, quand tu vois que ça va être
tout le casting original, c'est-à-dire Clancy Brown, qui fait d'ailleurs la voix de Missandra,
Clancy
Caroline
Brown,
Moreau.
en fait, mais moi ça m'a laissé quand j'avais jamais remarqué quand même.
Mais il est là depuis les débuts, lui, il est là
Mais
depuis
oui! Nelson, tu vois qui c'est Clancy Brown?
Ah, on a perdu Nelson.
Bon, c'est pas grave.
Non, mais j'ai pas entendu.
Tu vois qui c'est comme Clancy Brown?
Non, non, éclaire-moi, parce que là, je vois pas du
C'est
tout.
le méchant dans Highlander 1.
En
C'est
effet, toi.
Kurgan. C'est
Oui,
lui. Et ben
il est
maintenant,
partout. Il est partout.
maintenant il fait beaucoup de voix de dessin animé en fait.
Bah, il est plus tout seul non plus, hein.
Bah, je l'ai fait dans des séries où bah tu vois, je crois que c'était dans Sleepy Hollow en fait, il jouait un vieux shérif ou des trucs comme ça. Mais sur la voix de dessin animé, j'aurais pas attendu. Mais c'est un peu comme Mark Hamill qui s'est orienté vers le doublage aussi.
Ouais.
Il fait beaucoup de doublage apparemment aussi.
Bah, tiens, voilà, ça y est. Ça s'appelle Camp Coral, SpongeBob Under Years. Et ce sera en 2021 quand ils sont tous gamins.
Eh ben.
Donc, t'as l'impression, quand tu connais un peu ça, que tu as l'impression que le film de Netflix te prépare le terrain. Et autant le film démarre bien, même s'il y a ce ton infantilisant qui m'a un peu gêné, autant la dernière demi-heure, ça m'a gavé. Avec justement tous ces flashbacks, etc., qui ont plein de bons sentiments, etc., pour dire, oui, mais regardez, Bob, il est gentil, etc., etc. Et j'ai envie de dire, mais putain, mais on s'en fout, ça frôle le banal. Bob l'éponge, c'est pas banal, c'est un truc absurde dès la série qui date des années 2000, quoi. Putain, ça m'a un peu énervé, quoi. Voilà, on peut taper un peu sur le film de 2014, 2015, parce qu'évidemment, il est pas parfait. Mais là, le film de 2020, ça chute carrément, quoi. Bah voilà, c'est mon avis. Peut-être que Kato le défendra peut-être un peu mieux que moi, le film.
Bah,
Mais
pas
voilà,
vraiment en fait. Pas vraiment.
j'ai
En
trouvé
fait,
très moyen le
je
film,
suis
quoi.
je suis
C'est dommage.
pas j'ai pas réussi à m'attacher au truc en fait.
Oui, et en plus,
J'ai
tu t'attaches pas, les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont tous survolés d'un coup, alors qu'ils sont censés présenter pour un nouveau public, en plus.
Après, moi, comme je dis, l'aspect 3D, je suis pas fan. J'aime vraiment
Bien fait,
le.
mais bon.
J'aime vraiment. Oui, il est bien fait, mais c'est vrai, il est bien fait, mais je suis pas fan. Alors pour moi, Bob l'éponge, c'est vraiment le côté dessin qui est vraiment sympa. D'ailleurs, il y avait eu il y a quelques années une expo sur Paris, je sais plus à quel endroit, où en fait, tu avais plein d'artistes qui avaient détourné de l'image de Bob l'éponge, et c'était super intéressant de jouer avec ça. Là, en fait, de juste faire une 3D à la con, ça fait ressembler enfin, le film à n'importe quel dessin animé qui peut sortir ces dernières années, quoi. C'est-à-dire que
C'est
c'est
ça,
fou,
j'ai l'impression de voir des Pixar et avoir de nouvelles pellicules Bob l'éponge qui vont sortir en 2021.
Ouais, c'est devenu la norme, en fait, maintenant. Ah, tes souhaits. C'est devenu la
Merci.
norme. C'est devenu la norme, maintenant, de passer des dessins animés en 3D. Je trouve, enfin, ça aplanit toute personnalité, en fait,
Et
au
ça
truc.
réussit pas à tout le monde, en fait. Ça réussit
Voilà,
vraiment
c'est
pas à
ça.
tout le monde, ce genre de choses. Ouais, vraiment, hein.
C'est ça.
Malheureusement, il y en a, on les a connus en cellulo, faut faire en cellulo, sinon, en 3D, ça perd de son âme, quoi. Non, t'as raison là-dessus, t'as raison là-dessus.
C'est ça, exactement. Moi, c'est plutôt ça, mon avis. Il y a juste un truc, c'est que j'ai remarqué, en fait, entre le 1 et le 2, en fait, il y en a un qui a gagné du galon. Parce qu'en fait, sur le 1, c'est donc le tout premier film, tu avais un mec. Alors, attends, faut que je retrouve le nom. Parce que, du coup, voilà, tu as Matt Berry, qui
Ouais.
jouait. Un espèce de dauphin du futur, en gros, dans le premier film.
Oui, ça fait écho au dauphin, observateur cosmique, que tu vois dans le deuxième film.
Alors, c'est peut-être le 2, je sais pas, attends, mais non, c'est le 1 ou le 2,
Bah, le dauphin
attends.
cosmique,
Mais il me
façon
semble.
H2G2, c'est dans Bob l'éponge, un héros fort de l'eau, film 2015.
Bah, alors, c'est celui de 2015, je confonds. Bref.
Voilà, c'est le même film.
Et en fait, lui, Matt Berry, c'est pour dire ce souvenir que ça m'enlace, n'est-ce pas? Matt Berry, en fait, il jouait le dauphin cosmique dans l'un. Et en fait, entre les deux, il a gagné du galon. Il fait Poséidon maintenant dans le 3. C'est
Voilà,
le même,
d'accord.
en fait. Et en
On
fait,
prend la même équipe, mais en fait, on leur donne pas les mêmes rôles.
c'est ça. Non, mais je sais pourquoi je confonds avec le 1. C'est parce qu'en fait, dans le 1, en fait, là, dans le 3, tu as le roi Poséidon. Mais en fait, dans le 1, ils avaient déjà un roi, c'était le roi Neptune. Et en fait, enfin, je me suis dit, il doit y avoir une, enfin, la raison pour moi, mais je me trompe peut-être, c'est qu'en fait, dans le 1, le roi Neptune, c'était Jeffrey Tambor, en fait, qui faisait la voix. Et Jeffrey Tambor, en fait, qui a joué dans Transparente et dans plein d'autres trucs aussi. Je crois qu'il a joué dans. Enfin bon, je sais plus. Et en fait, entre-temps, avec MeToo, il a fait partie des mecs qui ont été accusés de
Ah,
tâter un
d'accord.
peu de la donzelle. Mais en même temps, tu peux pas. Enfin, est-ce qu'il fallait vraiment. Il pouvait pas remettre Roi Neptune, mais avec une autre voix, c'était un peu bien. Bref, donc. Voilà, roi Poséidon. Non, dieu Poséidon, pardon. Là, c'est un dieu plutôt. Et c'est plus le roi, c'est le dieu de Poséidon. Et par Matt Berry. Après, on s'en fout qu'il ait déjà fait le dauphin avant. Parce qu'en plus, il a une super voix. Matt Berry, en fait, il a joué dans IT Crowd ou Dark Place, qui est une série anglaise. Et depuis...
Il jouait quoi dans la petite crowd?
Il fait le patron.
C'était quoi le...
Il fait le deuxième patron, en fait. Il fait le
Ah,
fils du
deuxième
premier patron.
patron, ouais!
Voilà.
Mais
Et en fait,
oui!
là, depuis 2019, il joue dans What We Do in the Shadow, il fait un des vampires.
D'accord.
Donc voilà. Et il fait donc le dieu Poséidon.
D'accord. Ok.
Donc, moi je vais enchaîner avec Connecté.
Vas-y, connected.
Connected, c'est un autre film justement, tu vois.
Ah, d'accord, pardon.
Ouais, je crois que c'était un film, je suis pas sûre, mais moi, c'est un autre film justement. Alors Connected, qui est un film qui est sorti récemment, là le 12, il y a 3 jours, sur Prime Video, qui est un film français de Romuald Boulanger.
Il a fait quoi avant ça?
Eh ben, bonne question, justement, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il a surtout fait beaucoup de télé. Il a fait énormément de télé, il a fait des courts-métrages, voilà, en termes de longs-métrages ciné. Attends. Non, il a beaucoup écrit pour la télé, pardon. Il a beaucoup écrit pour la télé, et il a beaucoup écrit court-métrage. Après, en termes de réalisation, ouais, il a réalisé pour la télévision apparemment, et il fait un peu de télé et un court-métrage. Et ouais, il a fait, ouais, c'est ça. Je crois que ça doit être son premier film qui aurait dû être à destination de cinéma, à mon avis. Parce que je pense pas qu'à l'origine ils avaient l'intention de le sortir direct sur Prime, hein. C'est comme le film Brutus là, Brutus contre Rome là, je sais pas, César et Brutus, ouais. C'est ça, donc c'est pareil. Après, moi, je trouve ça très bien que les prods françaises s'orientent direct sur les plateformes et assument carrément le truc. Au contraire, en plus, je pense que concrètement, ça peut leur apporter un public qu'ils auraient peut-être pas eu en salle de ciné, parce que moi, je suis pas sûre que j'aurais été le voir en salle de ciné ce film-là.
Non, je comprends. Mais après, le problème il est toujours le même, hein, c'est qu'après, c'est la pub qui est faite derrière aussi, tu vois. C'est ça, c'est comme pour Aladdin, hein, c'est pareil, hein.
Bah
C'est
après,
tout pour moi, c'est
sur
toute la seule
pour
qu'elle a.
Brutus contre César, ils l'ont fait comme pour un film normal, hein. Après, pour Connecter, je crois qu'ils ont j'ai vu moins de trucs, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu moins de moyens, parce que pareil, c'est il y a moins de décors, tout ça, donc un soir, il y a des potos qui se connectent en conférence call. Donc c'est des potes, on devine à peu près, qui se connaissent depuis un certain temps. On sait pas trop comment ils se sont connus, mais voilà. Donc ils arrivent petit à petit dans la conversation jusqu'à ce que l'un d'entre eux, qu'on n'attendait pas, survienne. Parce qu'en fait, c'est l'ex-mari d'une d'entre elles. Il a été invité par quelqu'un. Il un jour, il a reçu un... Enfin, à ce moment-là, il a reçu un message de quelqu'un qui lui a dit « Connecte-toi avec le code, blablabla. » Et à un moment, donc, ils sont tous super gênés, machin. Et à un moment, il dit « Attendez, je vais ouvrir la porte. » Il va ouvrir la porte. On voit le mettre le masque, il va ouvrir la porte
Là.
parce que ça se passe en temps de confinement, bien sûr. Donc,
C'est vraiment un film de confinement, quoi.
ouais. D'où la
Enfin,
conférence
le film
call.
de confinement, enfin.
C'est ça, parce
Ouais.
que tout repose là-dessus, hein, clairement, hein, sur le fait de la conférence call. Donc il va ouvrir la porte et là il se fait agresser devant ses potes, voilà, qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui s'introduit chez lui. Et il va s'en suivre des tas de
Le moral de
révélations.
l'histoire, c'est que le masque, c'est mal. Là, tu fais
Et
non!
ben l'agresseur, lui aussi, il a son masque, tu vois. Parce qu'il est
La
couvert,
question, au moins, il est bien.
il a lunettes de soleil, il a, tu sais, le truc de pluie par-dessus pour pas qu'on voit sa silhouette. Enfin, il a une casquette, un masque, enfin bref, la totale.
Bien.
C'est ça. Et donc suite à ça, le méchant il va leur révéler plein de trucs, machin, aux uns aux autres, qu'en gros ils vont tous découvrir qu'ils se font des coups de pute entre amis, enfin, des coups de pute tous, enfin c'est pas, c'est je schématise mais c'est un peu ça. Donc en fait, moi ce qui m'a gêné un peu de prime abord, c'était François-Xavier de Maison dans le jeu, parce que je trouve qu'il joue pas très bien en fait. Je l'ai pas tellement vu au cinéma, donc là, moi, j'ai pas de comparatif, mais je trouvais qu'il jouait pas très bien.
Moi, j'ai vu pas mal au cinéma, je suis franchement, non. Moi aussi, je suis
Alors,
d'accord.
moi, je suis, bah, il y a un film où j'ai beaucoup aimé, où il joue dedans, et je le trouve bien, ça s'appelle Les Trois Frères. Mais sinon, il y a d'autres films que j'ai vus de lui, où j'étais un peu déçu, quoi. J'ai l'impression que c'est suivant s'il est bien dirigé ou pas, quoi.
Oui, c'est possible,
Ouais.
ça. T'as Stéphane de Groot, en fait, en deux phrases, on sait que c'est lui qui va être le bourgeois connard de la bande. Ah, il dit deux, trois trucs et pff, ça y est.
Avec
Au moins,
le
c'est
connard arrogant,
efficace,
c'est
hein.
toi.
Voilà, au
Ouais.
moins, c'est efficace comme description de personnage. C'est très cliché, mais c'est, voilà. Après, on sent un peu trop par moment que le tournage s'est fait chacun de son côté parce que les dialogues, des fois, manquent un peu de spontanéité dans le tout. C'est-à-dire que
Ouais, c'est
t'en as un
possible.
qui dit un truc et c'est comme si t'avais un décalage d'une seconde entre les trucs. En fait, c'est un peu bizarre, quoi.
Il est hors d'écran.
Quoi?
Lisent leurs écrans.
Et bien sûr, on est sur des adultes occupés. Donc, quand les enfants sont mentionnés, c'est bien pour montrer qu'ils te maintiennent loin de tes potes, de ton travail, qui sont un peu chiants, quoi. Donc,
D'accord.
voilà.
Et juste une question, un, deux, trois. Est-ce que c'est traité sous l'angle de la comédie ou alors c'est une comédie dramatique?
Donc au départ, on se dit que ça va être une comédie à cause du casting, mais c'est pas censé être une comédie, j'ai l'impression. Moi, pour
D'accord.
moi, c'est pas une comédie. Par
D'accord.
contre, c'est un drame, mais pas dans le sens où peut-être où ils leur voulaient. C'est un drame sur certains aspects qualitatifs surtout. Donc en fait, parce que déjà au niveau du jeu, tu vois, j'ai dit que François-Xavier de Maison, il jouait pas très bien, mais pour moi, il est pas le seul. Je pense qu'on, en fait, ça vient peut-être effectivement de la direction d'acteur, hein, je sais pas, mais parce que quand leur pote se fait attaquer, en fait, ça reste leur pote, c'est-à-dire que même si il s'est passé un truc, machin et tout entre eux, bref, ça reste leurs potes qu'ils connaissent depuis des années. Et
Bah
ben au niveau panique,
oui.
ah, c'est pas la
Comme
grosse
tu
folie.
vois.
C'est pas la grosse folie, hein, quoi. C'est « Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est tout, quoi. Enfin, on dirait qu'il y a du vent qui leur passe entre les deux oreilles à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de tension.
D'accord.
Ils font l'étonnement pendant des plombes. Et pendant des plombes, c'est « Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ok.
Sont pas vraiment concernés, quoi.
Ah ouais, ils sont devant la télé, je sais pas. En fait, ils ont plus de réactions quand le méchant leur fait des révélations un à un que quand leur pote se fait agresser sur leurs yeux. Bon, en même temps, c'est peut-être révélateur de leur relation à tous, mais quand même, je trouve ça
Ouais.
assez dérangeant, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, je sais pas, tu vois, t'en as au moins un ou deux qui crient derrière dans son écran. Enfin, je crois que t'en y avoir un, mais c'est pas. Enfin, il n'y a pas de tension, quoi. Le méchant, c'est le méchant de toutes les répliques clichés. C'est-à-dire que t'as le fameux faut toujours s'énerver hein, pour que les gens comprennent.
Ouais, super.
T'as aussi le fameux désolé pour tout ça, hein, genre quand le méchant il essaye de faire le méchant poteau, tu vois, genre il a foutu le bordel, il fait oh, je suis vraiment désolé, hein, tu vois, c'est ça.
Je vous dis votre pote, mais je suis désolé, le coup est parti tout
Oui,
seul.
c'est ça, c'est le méchant qui veut faire de l'humour, tu sais, c'est toujours ce « Oh, je suis désolée ». T'as aussi le « Je perds patience, quand je perds patience, je fais des bêtises !» Enfin,
Ouais, super, d'accord. C'est concis, un peu
mais
des
grave!
clichés, ouais.
Le jeu est tout rancier, souvent. C'est vraiment le cliché du méchant qui en fait des tonnes, hein. Et à tel point qu'à un moment, je me suis dit « C'est Dubosc ». J'étais là, j'étais persuadée qu'au bout d'un moment, au fil du. Un moment, je me suis dit, ça me mettait le plus le dos. Je fais, mais c'est vraiment super. Je me dis, ah non, je suis. parce que la voix est déformée, donc le visage est masqué, donc tu vois, il y avait un truc qui transparaissait. Mais du coup, c'est quelqu'un, je pense, qui joue comme Dubosc à un moment, et je me demande si c'est pas fait exprès. Parce que le personnage de Dubosc, il n'est pas là pas présent pendant tout le film, en fait. Il joue vraiment dans le film, mais à la fin, on le voit vite fait. Et je pense que c'était voulu, en fait, pour nous faire croire que c'était Dubosc. Moi, c'est ma théorie, hein, mais après.
Alors, est-ce que tu dirais que c'est encore plus gênant que Brutus vs César, qui était déjà apparemment très gênant sur Amazon, ou pas?
Ah, je sais pas. Justement,
sur l'échelle de la gênance, c'est combien?
J'en sais rien, je me suis posé. Ah, Brutus contre César est quand même pas mal, parce qu'ils ont tellement. Entre le casting, machin, tout. Enfin, c'est quand même très très lourd. Non, attends, j'ai pas fini. Attends, mais ouais, je me suis posé la question, mais je pense que connecter un chouïa, tu vois. Mais quand même. sinon, ouais, alors, le méchant est tellement cliché que, même avec les dialogues, en fait, c'est le cliché du méchant qui démontre qui démonte ses propres clichés et ceux des personnages pour faire comprendre que les auteurs ont bien compris qu'il fallait pas faire de clichés.
Mais oui.
C'est ça. Bon, c'est raté, mais donc quand il balance une petite phrase pour qu'on voit qu'il se rend compte que c'est ridicule, voilà, ou quand le scénario tente de faire croire que tous vont se faire agresser et que leur marchand leur dit oh ben non, ce serait bien cliché. Quand y a un perso qui dit c'est pas ce que tu crois, bah tout de suite le méchant il explique bien que c'est une phrase cliché de dire que c'est pas ce que tu crois. Ou t'as le personnage de Stéphane de Groot qui dit ça va le one man show pour faire comprendre que les auteurs nous disent on sait que notre méchant en fait des tonnes. Donc
ouais,
voilà.
C'est curieux quand même.
Mais c'est très classique, je trouve, dans les films français de faire ça. Mais généralement, enfin, t'as ça aussi dans les trucs de débutants aussi de dire ouais, c'est lourd, on sait que c'est lourd, quoi. Mais voilà, quoi.
Mais c'est cette espèce de. Oh putain, j'ai mal à parler aujourd'hui. Cette espèce de volonté de briser le quatrième mur et de se moquer de soi-même, bon, au bout d'un, ça va 2 minutes, quoi.
C'est ça, ça devient soi-même un cliché après. Du coup, oui, effectivement, on a des auteurs qui ont conscience que ce qu'ils ont fait, qu'ils l'assument et qui espèrent que ça va passer, quoi, tu vois. T'as le personnage de Nadia.
C'est un peu difficile en France.
Ouais. Non, mais le personnage de Nadia Fares qui met 30 ans, tu vois, par exemple.
Fares. Oui. Oh, t'es parti loin, de
ouf. Eh ben, elle joue dedans. Je trouve que c'est. À la limite, c'est un des personnages, je trouve, qui s'en tire le mieux, je trouve. C'est une des personnages.
T'es parti loin, Nadia Fares.
Ouais, pour moi, c'en est une qui s'en tire le mieux, je trouve. Elle fait avec ce qu'elle peut et je trouve que c'en est. Voilà. Je dirais pas grand chose sur elle. D'accord. Donc, sauf que à un moment, en fait, son personnage, bah, elle sort, elle veut voir les flics, elle tombe sur les flics, puis elle prend 30 ans à leur expliquer la situation, alors que ça prendrait qu'une phrase. Et finalement, elle finit par pas leur expliquer la situation. Et en fait, la seule justification à ce truc, c'est de faire gagner du temps sur l'histoire, quoi. Tu vois, c'est tout. Et c'est tellement. Par contre, là, ça sonne faux quand t'as mis 30 ans à expliquer le truc, tu vois. Ah oui, Stéphane de Groot, en fait, à un moment, il fait 2 références de jeunes, tu vois, truc qui sonne bizarre. Car en fait, à un moment, son personnage dit ah ouais, quand on a fait croire qu'on allait à Burning Man et tout, quand il fait une vanne à l'autre sur Vinted, son personnage, c'est genre un mec bourgeois type banquier de 50 ans. Il y en a combien à Burning Man?
Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah après, tu sais.
Après, je connais pas tant que ça la population de Burning Man, mais quand même. Mais son personnage est père de famille, quoi.
Ouais, je vois.
Son personnage d'un père de famille de 50 ans, banquier, très bourgeois. C'est pas vrai, je pense pas que ce soit. Enfin, je peux me tromper, mais je pense pas, voilà. Et il fait une vanne sur Vinted. Moi, j'ai toujours entendu parler des meufs de Vinted, hein. Les mecs, genre. Ouais, il y en
pas
a, mais.
Quoi. C'est pas crédible.
Que ça passe en. Ouais, tu vois, ça parce qu'il y a Claudia Tagbo, en fait, ça, c'est dedans, tu vois, si c'est elle qui avait. Parce qu'il fait de la vanne, justement, à Claudia Tagbo. Alors que j'aurais plus elle vu. Je l'aurais vu elle faire une vanne sur Vita, tu vois. Enfin, c'est parce qu'elle fait un peu jeune, voilà, tu vois, donc. Mais voilà, c'est un peu curieux en fait cette description de personnage. T'as des rebondissements qui vont vraiment pas chercher loin aussi. C'est vraiment aussi très cliché, des histoires de tromperie, de trahison, voilà quoi. Enfin, c'est pas. Enfin, voilà, on sent vraiment que tout le film repose sur « Hé, on est en conf call !» C'est tout. Donc voilà. Et la musique, c'est une catastrophe aussi. L'arrestation du méchant à la fin, on dirait une reconstitution de drama TV. Tu sais, les émissions, en fait, qui reconstituent les événements.
C'est en train d'accuser.
Ouais, ou tu sais, je sais plus, un jour, je sais pas quoi aussi, enfin, je sais plus.
Le jour où tout a basculé.
Voilà. En fait, t'as une petite musique qui est digne de ça derrière, quoi. C'est très bizarre. Ouais. Quelle horreur. Sinon, on n'entend pas tellement, hein, la musique, hein, mais quand tu tends l'oreille, tu fais, oh, mon Dieu. Et la conclusion est super lourde, hein, quoi. T'as Pascal de Molon qui, donc ça se termine sur un happy end pour le couple, machin. Bref, je spoil un peu. T'as Pascal de Molon qui fait un espèce de discours, mais c'est dramatique comment c'est moralisateur, quoi. Par contre, ouais, il y a aussi un dernier truc, sur les points négatifs, c'est que, Vanessa Guide et Dorothée Posseo, c'est des plantes.
Ouais.
Ah ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, elles apparaissent deux fois pour dire coucou, c'est moi l'épouse. C'est tout. En gros, c'est ça, quoi. Ah mais carrément. Alors que Vanessa Guide, bon, elle commence à avoir une petite carrière maintenant, tu vois. Hein, où c'est pas la plus connue du monde, mais quand même. Et Dorothée Pousseau, c'est une meuf. On connaît sa voix. C'est-à-dire qu'au cinéma, on connaît peut-être pas sa tête, mais sa voix. C'est-à-dire que la meuf, tu connais tout. Elle fait, je sais pas si tu regardais le dessin animé Martin Mystère.
Ouais.
Elle jouait le rôle de la pote à Martin Mystère. C'est elle, tu la vois. C'est elle qui fait la voix de Harley Quinn aussi, le film.
Ouais,
c'est une voix qu'on connaît depuis, je sais pas, 10 ans, 20 ans. Enfin, je dis rien.
Ouais, c'est des comédiens de doublage, mais tu sais, c'est comme.
Non, juste Dorothée Pousseau. Vanessa Guide, elle jouait dans Aladdin, la princesse, je crois.
D'accord, je pensais que c'était comédienne de doublage. Pardon.
Non, c'est Dorothée Pousseau qui est comédienne de doublage. Mais acting, je suis désolée, mais tu la montes pas deux secondes, quoi. Elle a à peine dit une phrase, quoi. Enfin, une phrase ou deux, quoi. Donc, elle fait l'épouse de Michael Youn. Donc voilà, c'est ça qui me dérange par rapport à ces
personnes. Michael Youn, pas Michael Youn.
Michael Youn, excuse-moi, c'est pas...
Non mais la France quand même.
Excuse-moi, j'étais partie. j'étais partie loin, on fait ce qu'on peut en confinement, on s'imagine où on veut. Hein. Les deux points positifs, c'est que t'as quand même quelques petites phrases drôles de temps en temps, mais vraiment par-ci par-là, il y en a assez peu. Et je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça, c'est con, mais j'ai trouvé ça drôle en fait. À un moment, t'as Audrey Fleurot qui en fait, il y a le drame qui vient de se passer, et d'un coup, t'as Audrey Fleurot qui lance son conf call de sa salle de bain. J'ai trouvé ça drôle en fait. C'est d'interrompre comme ça en fait. Je trouvais que c'était un moment assez drôle. Mais sinon, voilà, c'est pas. Mais pourtant, tu vois, le film, il a quand même une relative dynamique. Je pense que ça peut être. Je pense que ça peut être un peu divertissant suivant les publics, tu vois. Je pense que ça peut correspondre à certains publics aussi, tu vois. C'est pour ça que je suis pas. C'est pour ça que je me place un chouï au-dessus de Brutus contre César, tu vois. Mais
c'est...
voilà, c'est ça. Mais c'est pas non plus la grosse fée. C'est pas. Ouais, voilà. Donc pour moi je reste là-dessus. Et donc Nelson avec Uncut James de Benny et Jeff Savsdy.
Ouais, Uncut James. Alors ça raconte l'histoire de ah putain, aide-moi le nom de l'acteur, putain, j'ai oublié son nom.
Adam
Adam Sandler. Adam Sandler.
Putain, j'ai vu aussi.
Voilà. Parce que je suis en train de dire Adam McKay, moi je sais, il y a Adam dedans, mais c'est quoi déjà? Il y a
Non,
Adam Sandler.
j'étais partie sur Andy Samberg, moi, parce que quand je suis en train de mater les
Ben
Brooklyn
ouais, mais oui, c'est
Nine-Nine,
pas ça du tout.
tu
C'est donc qui joue par Adam Sandler, qui en fait un comment s'appelle un business, c'est un juif qui a un business de bijoux
vois. De
et de pierres
gems.
précieuses. Et en fait, c'est un mec, c'est un loser, joueur invétéré, qui a une maîtresse, qui il emprunte de la thune à droite à gauche, il doit de l'argent à tout le monde, c'est un bordel monstre dans sa vie. Et ce gars-là, il fait venir une pierre d'Afrique, d'Éthiopie. Il fait venir une pierre et en fait cette pierre, il la prête à un basketteur et ce basketteur c'est devenu en fait cette pierre c'est devenu son fétiche. Il arrive à marquer grâce à cette pierre et tout, tu vois. Et le mec, en fait tout se déroule sur quelques jours et le type essaye de retrouver il récupère sa pierre et en même temps il essaye de la revendre derrière. Comment on appelle ça, tiens, aux enchères. Il essaie de la revendre aux enchères et il essaye aussi de récupérer un max de thunes sur cette enchère-là. Et il va lui arriver tout un tas de trucs. Alors derrière, il y a son beau-frère qui s'appelle Arnaud, qui est un mec qui a des gros bras avec lui. Alors, on comprend pas tout de suite que c'est son beau-frère, mais en fait, il doit de l'argent. Il lui doit de l'argent aussi, et t'as des mecs, des espèces d'armoires à glace avec, tu sais, de type irlandais, qui font que de menacer Adam Sandler pendant tout le film et tout. Tu dis, on va te casser la gueule et tout, il faut que tu files l'argent à Arnaud et tout. Donc au début, tu penses que Arnaud, c'est un mec genre de la mafia, quoi. Et en fait, au final, t'aperçois que c'est son beau-frère. Et donc ce gars-là, qui est joué donc par Adam Sandler, c'est une espèce de vraiment de mecs ratés, quoi, qui se dit toujours, mais non, mais je vais t'inquiète, je vais me refaire, c'est comme au casino, genre, t'inquiète, je vais me refaire, t'inquiète, je vais me refaire. Et en fait, on suit ce bonhomme, et putain, mais on peut plus trouver de la pitié pour ce gars-là, quoi. C'est disant, mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là, quoi, tu vois, t'es qu'un paumé, quoi, tu vois. Et tu regardes, et franchement, alors, il y a quelques longueurs, tu vois, dans le film. Je trouve qu'il y avait quelques longueurs. Donc, c'est vrai que le suspense, au bout d'un moment, ils l'ont fait trop durer. Et que, bah, moi, j'ai appuyé sur la barre espace et j'ai appuyé sur la flèche avant, quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça me cassait les couilles. Mais le film est assez correct. Par contre, les mecs, ils jouent super bien. Je veux dire, Adam Sandler joue un mec extrêmement énervant. Déjà, d'habitude, je l'aime pas trop, seulement dans Don't Mess with the Zohan. Il était super, mais là, je le trouve très souvent très énervant. Mais là, dans ce
C'est vrai
film-là,
qu'il
il
le
est
ça.
vraiment bon. Ouais, mais là, dans ce film-là, il est vraiment bon et il est encore plus énervant. C'est-à-dire qu'il est énervant parce qu'il est bon, tu vois. Pareil, moi je
Et
l'ai trouvé vraiment très bien, alors que d'habitude j'ai vraiment du mal avec Adam Sandler.
voilà. Et là, dans ce film-là, il est vraiment bon, il est très énervant et en même temps, t'as envie de dire, mais comment les mecs, t'arrives à les embobiner, quoi, tu vois? Pourquoi t'essaies d'embobiner tout le temps les gens? Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Qu'est-ce qui, tu vois? Un coup, il va faire le mec, il va faire le mec croyant, et puis la fois d'après, il va voir sa maîtresse et tout. Alors, sa maîtresse, en plus, qui est une meuf sublime. Mais je l'ai pas compris tout de suite que c'était ça. En fait, que la maîtresse en fait, c'est une meuf avec qui il bosse, t'sais. Et c'est une de ses employées. Et en fait, au début, j'ai pas tout de suite compris que c'était une de ses employées. Elle est sublime dedans. En plus, elle est tout le temps, elle est habillée sexy pendant tout le film. Donc, elle est vraiment sublime. voilà, c'était ça. MeToo, votez MeToo pour moi.
C'était la petite minute
Et
hormonale, quoi.
voilà. Et non, mais franchement, le film est bien, puis surtout la fin, je vais pas spoiler, mais la fin m'a surpris de ouf, quoi. Quand j'ai vu la fin, je dis, oh, de dingue! Je me suis dit, putain, mais merde, je sais pas. Waouh! J'étais vraiment surpris par la fin. Le film est correct. Le scénar, là aussi, est sans fioriture. Le seul truc que je
Il n'y a
trouve,
pas de
c'est que,
surprise.
bah, non, mais c'est le seul truc, en fait, qui m'emmerde, c'est le fait que, bah, le montage, il fait des longueurs, quoi. Il y a des longueurs dans le montage et que du coup, au bout d'un moment, on est là, vas-y, fais chier, quoi. Vas-y, passe, avance, avance un peu, tu vois. Ça me saoule, tu vois. Mais parce que tu sais, il y a des suspens où tu es là, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. C'est intenable, mais tu es dedans. Là, celui-là, il te fait sortir du film et c'est ça qui est chiant. Donc du coup, bah, le film est vraiment est regardable, est tout à fait regardable. C'est un bon film. C'est un bon film. Et puis il y a des bons partis pris de montage sur certaines séquences. Il y a des bonnes idées de réal aussi. Et j'aime bien les transitions entre certains plans, vraiment où tu dis putain, le mec il a bossé quand même visuellement, il a bossé son sujet. C'est quelque chose de vraiment cool. La musique est bien. Moi, j'ai bien aimé la musique dans ce film, mais vraiment, moi, je me suis bien amusé. Et c'est un, je dirais que c'est un bon film de seconde partie de soirée. T'es là, t'as vu France 2, il n'y a plus rien sur France 2, tu vas regarder ça, tu vois.
Oh, tu me dis un peu là.
Voilà, t'es là, tu vas regarder ça.
J'allais dire que j'avais souvenir que la photo était vraiment pas mal, mais la photo justement, c'est parce que c'est Darius Conji.
Oui, bah
la manière dont on parle, ça fait limite vie ma vie de confiné, quoi.
C'est ça. Non, mais tu sais, c'est ouais, bah oui, c'est le chef-op de Woody Allen et des pubs pour Victoria's Secret, donc c'est pas un con, quoi.
Alors c'est marrant,
Mais
quand on cite Darius Conji, généralement en France on a le réflexe de dire ouais, c'est le mec qui a bossé avec Jean Genet,
Fincher.
je
Avec
pas
Fincher.
Jean Genet, j'ai
Non, c'est Genet et Caro. Jean Genet,
Jean
c'est un autre, hein.
Enfin bon, vous voyez quoi. Donc en fait, généralement, on avait le réflexe de parler de ça, genre ouais, il a bossé sur Alien, ouais, il a bossé sur un mec. Bref. Donc toi, tu m'as cité autre chose, c'est bien, ça change.
Bah ouais, donc voilà, c'est juste c'est tout ce que je pouvais dire sur ce film-là. Voilà, c'est un bon film de seconde partie de soirée. Franchement, il est dans la lignée de tous ces films avec ces losers qui crânent à Las Vegas mais qui pèsent que dalle. Et il y en a plein comme ça. Il y a Snake Eyes, il me semble, le dernier. Le seul dont je me souviens, parce que j'en ai vu plein comme ça, mais le seul dont je me souviens, c'est à peu près c'est Snake Eyes. Mais il y en a plein d'autres dans ce genre-là, de mecs qui sont totalement des losers finis, mais qui continuent à arnaquer des gens et à avoir des espèces de vies un peu parallèles où au final on se dit mais tu sais, tout le moment du film on se dit il est encore sauvable, tu vois, et puis finalement il l'est pas, quoi. Et ça, ce film-là, ça en fait partie, mais vraiment il est bien, il est bien, je vous conseille. Voilà pour moi.
Ok. Bon bah c'est tout pour nous pour aujourd'hui. J'ai dit pas mal. Et bah on vous retrousse. Ah bon? On vous retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, pour dimanche prochain aussi normalement.
Yes,
Donc voilà,
yes, yes. Gros bisous
bah au
à
revoir à tous.
vous.
Ciao, ciao.